Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, premier épisode d'une série que nous vous proposons tous les jours jusqu'à jeudi sur le thème de la trahison en politique sous la Ve République. Nous commençons aujourd'hui par l'histoire d'une haine au plus haut sommet de l'État, Mitterrand-Rocard. Quelle inculture, disait le premier du second. Quelle incompétence, répondait ce dernier. Tout est dit. Rivalité personnelle, fossé générationnel, notamment vis-à-vis de la guerre, l'un à la fête, l'autre pas. Choc de deux personnalités que tout oppose, y compris les idées au sein de deux gauches sœurs ennemies, l'ancienne et la nouvelle, la première et la deuxième, les socialistes et les sociodémocrates. Pourtant, comme l'écrivait l'ancien rédacteur en chef du Nouvel Observateur, Robert Schneider, Mitterrand et Rocard étaient complémentaires, faits pour s'entendre et gouverner ensemble. Le premier, étatique et secret, était né président. Le second, imaginatif et pédagogue, était né gestionnaire. À l'un, Mitterrand, les grandes orientations. À l'autre, Rocard, les dossiers de la vie quotidienne. À l'un, la France. À l'autre, les Français. Or, cette construction érigée sur des fondations plus que fragiles dans les années 70 connaîtra un épilogue du genre, ce qui devait arriver arriva. Lorsqu'en 1994, en effet, lors d'élections européennes, François Mitterrand portera le coup fatal à la carrière de celui qui avait osé le défier. Mais est-ce une trahison? N'est-ce pas plutôt un meurtre symbolique dont la politique s'est toujours nourrie dans notre démocratie? Et puis, la trahison n'est-elle pas consubstantielle à la politique qui est aussi trajectoire personnelle, rivalité, lutte d'influence? Après tout, sur le chemin de la trahison, il n'y a que le fleuve de la honte à traverser. De tout cela, nous parlerons avec notre invité Jean Garrigue, historien, spécialiste de la Ve République. Il a supervisé l'écriture du livre « La République des traîtres » qui vient de paraître aux éditions Talendier, un livre qui nous a inspiré cette série d'émissions et dont les chapitres ont été confiés à des journalistes politiques bien connus des Français comme Christophe Barbier, Michel Cotta ou encore Renaud Dely. Je les cite, car nous allons les recevoir tout au long de la semaine. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mercredi 15 mai 1991, Paris, les 8h45. Une R25 grise, escortée par deux motards, file à vive allure dans les rues de la capitale. À son bord, le Premier ministre, Michel Rocard, son chauffeur et l'un de ses conseillers. Leur destination, le palais de l'Élysée, où se tient, comme chaque mercredi, le Conseil des ministres. Assis à l'arrière, le chef du gouvernement feuillette ses dossiers. Chacun d'eux lui rappelle qu'en ce printemps 91, la situation politique du pays est critique. La rue est en colère et autour des villes, les banlieues flambent. Quant aux sondages, ils sont en chute libre. Depuis plusieurs semaines, le président de la République, François Mitterrand, lui demande de réagir, de reprendre l'initiative, d'inverser la tendance. Faute de quoi, il paiera le prix de son échec. Ce mercredi matin, c'est donc un Michel Rocard inquiet qui se présente à 9h face aux grilles du palais de l'Élysée. D'autant plus inquiet que la rumeur de son départ enfle chaque jour un peu plus dans la presse. La veille, à la radio, il a entendu Jacques Séguéla, publicitaire et ami intime du président, déclarer « La fin de Rocard, c'est pour bientôt ». Ce matin, sur France Inter, le sort de ce Premier ministre, comme suspendu à un fil, fait une nouvelle fois la une de l'actualité. France
Inter. Intermatin, le journal de Denis Astagnon.
Élysée Matignon, de fort mauvaises rumeurs. Michel Rocard serait sur le départ. C'est en tout cas ce qui a agité hier toute la classe politique française.
France Inter.
Rumeurs, quand tu nous tiens, on n'a parlé que de cela toute la journée d'hier. Rocard était sur le départ et beaucoup avaient sur le bout de la langue le nom de son successeur au poste de Premier ministre. La rumeur n'était plus un chuchotement, c'était un véritable bruit, presque un vacarme, qui résonnait des couloirs de l'Assemblée au vestibule des ministères. Quel contraste avec le silence total de l'Élysée comme de Matignon sur cette affaire. Alors avec vous, Simon Tivol, essayons de clarifier les choses. D'abord, s'agit-il d'un changement de Premier ministre ou d'un remaniement ministériel?
Alors selon les indiscrétions parties dans un premier temps de l'entourage de François Mitterrand à l'Élysée, il s'agirait bel et bien de changer de Premier ministre et pas seulement de donner un coup de peinture à l'équipe gouvernementale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un changement imminent, soyons prudents, alors qu'on l'attendait plutôt ce changement pour le début de l'été.
Au moment de détacher sa ceinture, Michel Rocard est conscient qu'il est en sursis à Matignon. D'ailleurs, lorsqu'il monte les marches du perron de l'Élysée, il tente de se convaincre. Mais non, voyons, changer un premier ministre en pleine session parlementaire, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la Ve. Quelques instants plus tard, il entre dans le bureau du chef de l'État. Celui-ci est assis et ne relève pas la tête. Michel Rocard le salue et s'installe dans le fauteuil en face. Brusquement, le président se redresse, le regarde et lui dit « La rumeur devient très forte, il faut accélérer. J'attends votre lettre de démission à l'issue du conseil. » Désemparé, Michel Rocard lui répond « Monsieur le président, sommes-nous vraiment un ou deux jours près ? J'ai prévu d'aller demain au conseil d'État pour présenter mon projet de loi sur les écoutes téléphoniques. » Mitterrand l'interrompt brusquement. « Non, nous devons aller vite, sinon nous donnerons une impression d'indécision. » C'est avec cet ultimatum dans son gros cartable que le futur ex-premier ministre accompagne le président au salon Murat, là où se tient le conseil des ministres, à 9h30 précise. François Mitterrand et Michel Rocard s'assoient face à face, mais ils ne se regardent pas. Le ministre des Affaires sociales, Claude Évin, un proche du premier ministre, constate que le chef du gouvernement n'ouvre pas ses dossiers, qu'il ne prend aucune note. À la fin du conseil, il s'approche et lui demande inquiet « Michel, tu pars ?»« Oui, c'est fini », lui répond Rocard. À 11h30, il revient à Matignon et s'enferme avec son chef de cabinet, Jean-Paul Huchon. « Et qui prend ta place ?» lui demande-t-il. « J'en sais rien. Le président n'a pas daigné me le dire. » Et Michel Rocard ajoute « J'écris ma lettre de démission à Mitterrand et je l'envoie tout de suite. » Jean-Paul Huchon s'occupe alors du déménagement en urgence. De son côté, Michel Rocard reste seul et rédige ses derniers mots en tant que Premier ministre. Sur une page blanche, il écrit cette amorce. « Monsieur le Président, à l'heure où il me faut vous présenter ma démission. » Une première phrase qui en dit long sur le sentiment d'abandon qui envahit ce Premier ministre et conduit cette impression d'être aussi victime d'un président qui décidément ne fait preuve d'aucun égard. Rendu public dans l'après-midi, la nouvelle fait le tour des rédactions, bien sûr. Avec elle, évidemment, cette question, qui sera le prochain chef du gouvernement ? L'Élysée maintient le suspense. Michel Rocard affirmera qu'il a découvert le nom de son successeur lors de l'annonce faite le soir même à 20h par le président de la République à la télévision, autrement dit comme vous et moi, relégués au rang de simples citoyens, spectateurs impuissants de sa disgrâce.
Mes chers compatriotes, vous savez que ce matin, M. Michel Rocard m'a remis sa démission. Cet après-midi, j'ai nommé Mme Edith Cresson, Premier ministre. Elle me proposera demain, jeudi, la liste des ministres. Ils se mettront aussitôt au travail.
Devant leur télé, les Français assistent en direct à l'épilogue d'une journée brutale qui met en lumière toute la complexité de la relation entre les deux hommes qui se sont toujours regardés en chien de faïence. Mais pourquoi, au juste ? Il doit bien y avoir quelque chose de précis, un fait ou plusieurs, dont les traces sont encore là, toujours vives, comme une blessure qui ne voudrait pas cicatriser. Pour le comprendre, il est nécessaire de remonter le temps, comme souvent. 20 ans, en l'occurrence, à une période où les pavés parisiens tremblaient encore au rythme des manifestations étudiantes et pendant laquelle François Mitterrand, Michel Rocard tentaient d'imposer leur style et leurs idées dans les rangs de l'opposition. Juillet 1971, Paris, cité Malesherbes, siège du Parti Socialiste. Au troisième étage, dans le bureau du premier secrétaire, s'est installé le nouvel homme fort de la gauche, François Mitterrand. Un mois plus tôt, grâce à un tour de passe-passe politique mémorable, jonglant mieux que personne avec les rapports de force au sein du PS, cet homme, qui quelques jours avant n'avait même pas sa carte au Parti Socialiste, remporte le congrès d'Épinay et devient le chef. Immédiatement, sa doctrine se dessine et tient en un mot « union ». Car pour remporter les prochaines élections, la gauche doit se rassembler derrière un seul candidat, message adressé évidemment et en premier lieu au Parti communiste. Mais pas seulement. Alors, en ce jour de juillet 71, Mitterrand reçoit le chef de file du Parti Socialiste Unifié, le PSU, l'aile gauche de la gauche. Et ce chef de file, c'est un jeune homme brun, dynamique, moderne, un homme que les Français connaissent. Il était 2 ans auparavant candidat à la présidentielle remportée par Georges Pompidou. Cette tribune a fait de lui un député, chef de parti et surtout une figure médiatique, une offre politique qui séduit la presse. Hier, marginalisé, son petit parti, le PSU, est désormais au cœur du débat.
Michel Rocard, toutes ces études, tous ces diplômes auraient pu vous mener à une carrière beaucoup plus rémunératrice. Pourquoi avoir choisi la politique ?
D'abord, c'est vrai. La majorité de mes camarades de promotion sont banquiers, directeurs de ministères, etc. Je crois que j'ai fait un choix plus passionnant. Et il y a une certaine noblesse à défendre des idées auxquelles on croit, même si ce n'est pas financièrement fructueux, bien au contraire, il y a beaucoup à y perdre.
En ce début d'été 1971, Michel Rocard symbolise dans la presse l'homme de la gauche moderne, alors que François Mitterrand fait pâle figure. Certes, on admire son charisme, on vante son intelligence et son expérience aux responsabilités. Mais en 1971, il n'incarne pas le renouveau. À gauche, certains le considèrent même comme un arriviste, un simple converti, d'où cette fameuse phrase de Guy Mollet, l'ancien numéro 1 de la SFIO, qui disait de lui « Il a appris à parler socialiste ». Eh bien, disons que cet homme apprend vite. Écoutez.
Nous sommes là comme des ouvriers à pied d'œuvre. Nous aimons ce que nous faisons. De nos mains et de notre esprit, nous construisons le socialisme.
Au moment où les deux hommes se font face et se serrent la main dans les bureaux de la cité Malesherbes, en ce mois de juillet 71, ce sont donc deux trajectoires politiques différentes qui se rencontrent. Le contraste est même saisissant. La différence d'âge, d'abord. Mitterrand a 55 ans, Rocard 41. Le premier a connu la Seconde Guerre mondiale, Vichy, la Résistance, puis les heures et déconvenues de la Quatrième République et enfin la guerre d'Algérie. Le second, trop jeune au moment des faits, n'a pas pris part à ces événements. Non. Son combat, c'est mai 68, où il est en première ligne. Ce même mouvement qu'un certain François Mitterrand regardait passer sous ses fenêtres de la rue Guynemer, tout en cherchant à comprendre les codes, avant de se découvrir imprudemment, s'estimant prêt à assumer un pouvoir que le général de Gaulle semblait un temps abandonner. Autre différence, la construction intellectuelle. François Mitterrand est un amoureux de l'écriture, de la lecture, de l'histoire. Michel Rocard, lui, est un passionné de sociologie et d'économie. L'intello et le prosaïque, diraient les anti-rocardiens les plus virulents. Différence de style aussi. Mitterrand, le plus vieux, est connu pour son calme et son sang-froid. Rocard, le plus jeune, figure d'homme nerveux et impatient, voire agité. Enfin, les deux hommes ont des origines et une éducation qui n'ont rien en commun. Mitterrand vient de la province, de la Charente. Rocard, lui, a grandi en banlieue parisienne. Le premier est croyant, marqué par une éducation catholique. Le second est agnostique et a été scout, mouvance protestante. Ces différences se ressentent dans leurs échanges. Pour le dire clairement, ils ne se comprennent pas. Et le résultat de cette rencontre de juillet 71 au siège du PS est à l'image de la relation qu'ils vont entretenir, conflictuelle. Car Rocard se braque immédiatement quand Mitterrand lui propose d'intégrer le PSU dans le PS. Devant cette sorte de fusion-acquisition politique, le refus est catégorique. Pour François Mitterrand, Rocard n'est qu'un jeune énarque ambitieux et méprisant. Pour Michel Rocard, Mitterrand n'est qu'un vestige de la quatrième archaïque et égoïste. Trois ans plus tard, en 1974, Michel Rocard rejoint finalement le Parti Socialiste. Nécessité faisant loi, Mitterrand considère qu'il est préférable de l'avoir à l'intérieur, quitte à se fâcher un peu avec les communistes, plutôt que d'en faire un électron libre qui pourrait être incontrôlable. Le secrétaire du PS lui offre un poste de conseiller aux affaires sociales, ce qui, dans l'organigramme du parti, n'est pas vraiment une place d'honneur intéressante, certes, mais pas exposée. Et Michel Rocard ne s'en satisfait pas, bien sûr, car il veut peser dans le débat. Au sein du PS, des tensions éclatent. Au congrès de Nantes, en 1977, Rocard lance les hostilités et affirme qu'il existe deux gauches, l'une jacobine, l'autre décentralisatrice. Malaise dans le camp socialiste.
L'affrontement que tous les observateurs pressentaient entre François Mitterrand et Michel Rocard est devenu une réalité plutôt qu'on ne l'envisageait. Le ton entre les protagonistes et leurs alliés est devenu agressif, corrosif, voire malveillant. Casson de fer, n'hésitez pas, sur notre antenne, hier matin, à comparer les propositions économiques de Michel Rocard à la politique d'un Pierre Laval. Jacques Delors, vous êtes considéré comme un sage. Il est difficile de vous situer comme étant plus favorable à un camp qu'à un autre. Même si vous êtes un des collaborateurs de François Mitterrand, vos analyses économiques sont souvent pas très éloignées de celles de Michel Rocard. Alors, toutes ces déclarations, toutes ces manœuvres m'amènent à vous poser une question. À quoi joue-t-on au Parti Socialiste ?
Vous savez, les petits complots de couloir, faire ami-ami avec les uns ou les autres, les petites phrases empoisonnées, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas les militants du parti. Les petites phrases empoisonnées, ça peut faire la une des journaux. Ça peut ravir vos adversaires politiques, mais ça ne fait en aucun cas progresser le débat politique.
François Mitterrand est furieux. Cité Malesherbes, à Paris, au siège du PS, le climat se tend. De son côté, Michel Rocard s'interroge sur la stratégie qu'il doit adopter. Doit-il se risquer à l'affrontement avec Mitterrand? Ou au contraire, doit-il faire machine arrière et se placer comme l'héritier du premier secrétaire? Il n'arrive pas à trancher. Et puis, brusquement, en mars 1978, à l'occasion de la énième défaite de la gauche, pendant la soirée électorale, Michel Rocard tient des propos saisissants, protestant contre cette fatalité qui voudrait que son camp soit toujours battu, fustigeant un certain style de politique, un certain archaïsme qui sont condamnés, dit-il. Je reprends ces mots, suivez son regard. Un an plus tard, au mois de juin 1978, les deux hommes se rencontrent à Conflans-Sainte-Honorine, le fief politique de Michel Rocard, dans le plus grand secret. Ils déjeunent en tête-à-tête, avec l'espoir d'apaiser leurs relations. Deux heures plus tard, François Mitterrand ressort, le premier du restaurant. C'est là qu'il dit « quelle inculture ». Quelques minutes plus tard, Rocard sort à son tour et c'est là qu'il réplique « quelle incompétence ». Deux phrases symboles d'un échec, deux phrases symboles d'une relation impossible, d'un gouffre.
C'est vrai, camarades, que nous ne faisons pas la chasse aux laïcs, que nous ne faisons pas la chasse aux chrétiens.
Avril 1979, les socialistes se réunissent à Metz pour un grand congrès. L'objectif est double. Déterminer une ligne politique pour le parti et surtout préparer la candidature de la gauche pour la présidentielle de 1981. Au micro, à la tribune, deux discours sont particulièrement attendus. D'un côté, celui du réalisme économique de Michel Rocard, de l'autre, celui de l'union de la gauche de François Mitterrand. Mais très vite, loin des micros et des projecteurs, mitterrandiens et rocardiens jouent des coudes pour monter des alliances. C'est la fameuse valse d'émotions sans laquelle un congrès du PS ne serait plus un congrès du PS. Alors, Rocard peut-il faire basculer la donne et récupérer le parti? Il l'espère. Au fil des heures, l'ambiance se dégrade. Le suspense monte d'un cran. Pour répondre aux thèses économiques développées par les rocardiens, François Mitterrand envoie à la tribune l'un de ses porte-flingues les plus talentueux, le jeune Laurent Fabius, qui déclare sans pitié « Entre le plan et le marché, il y a nous, le socialisme ». Le lendemain, les militants rendent leur décision. Elle est sans appel. La motion menée par François Mitterrand l'emporte avec 45% des voix. Michel Rocard est deuxième, loin derrière, avec seulement 20%. Bon prince et bon usage des rites républicains, Michel Rocard s'incline.
Permettez-moi de préciser un détail. Cher François Mitterrand, ce ne sera pas l'opposition du prétendant. J'ai dit et répété, je le répète ici, qu'en votre qualité de premier secrétaire, vous serez le premier d'entre nous qui aura à prendre sa décision personnelle sur le point de dire s'il est candidat aux prochaines élections présidentielles. Et si vous l'êtes, je ne le serai pas contre vous.
Mitterrand a gagné. En apparence, Rocard s'avoue vaincu. En apparence. Car dans les mois qui suivent, encouragés par d'excellents sondages, les rocardiens croient en leur destin et en celui de leur chef. Qui mieux que Michel Rocard pour incarner la jeunesse? Qui mieux que lui peut incarner le renouveau? Pourquoi ne jouerait-il pas sa carte jusqu'au bout? D'autant que, de son côté, François Mitterrand continue d'alimenter le flou autour de sa candidature. C'est dans ce contexte que le 19 octobre 1980, un an seulement après le congrès de Metz, survient ce coup de théâtre. Michel Rocard coupe l'herbe sous le pied de son rival et annonce à la télé qu'il se lance dans la course à la présidentielle de 1981. Le premier secrétaire ne réagit pas. Mais au PS, la fracture est profonde. Doit-on suivre Rocard ou doit-on attendre Mitterrand? Sur France Inter, le journaliste Hervé Hamon décrypte.
Le duel Rocard-Mitterrand, enfin pour dramatiser un peu le terme, ça n'est pas un combat des chefs. C'est beaucoup trop simple de voir les choses comme ça. C'est effectivement deux traditions de la gauche qui s'affrontent au fond depuis la guerre d'Algérie. Rocard, c'est cette tradition qui est passée par le PSU, qui est passée par le club Jean Moulin, qui est décentralisatrice, qui est anti-jacobine. Mitterrand, c'est l'homme de l'union de la gauche, c'est l'homme qui est revenu aux affaires politiques à travers une alliance entre Mollet et Thorez en 65. Je veux dire d'abord que c'est un personnage chaleureux, que c'est un homme qui travaille en équipe, ce qui est singulier dans ce milieu, et que c'est un homme qui respecte les journalistes, ce qui est encore plus singulier.
La L'affrontement entre François Mitterrand et Michel Rocard ne dure que quelques jours. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, forcé et contraint, précipite son annonce et se déclare à son tour candidat à la présidentielle au cours d'une allocution totalement ratée où il ne regarde pas la bonne caméra, une prestation d'amateur pour Michel Rocard. Et puis, à la surprise générale, il fait immédiatement marche arrière, se retire et se range derrière François Mitterrand. Alors, s'agissait-il d'un simple coup de bluff ? Rocard a-t-il voulu montrer qu'il ne fallait pas le sous-estimer ? A-t-il voulu imposer son tempo à tout le PS ? Certains observateurs estiment même qu'il a pu s'agir d'un piège tendu par le clan Mitterrand pour décrédibiliser Rocard en le poussant à se présenter puis à se retirer juste après. Si un certain flou règne encore sur cet épisode, une chose est sûre. À la fin de l'année 80, le seul candidat de la gauche à la présidentielle, c'est François Mitterrand. Et la question que tout le monde se pose est de savoir s'il peut l'emporter face au président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Autrement dit, réussira-t-il à être le premier socialiste à s'installer à l'Élysée sous la Ve ? Un homme dans son camp en est certain. Il le dit, il l'affirme, et il se trouve que cet homme, c'est Michel Rocard.
Il nous unit et bien suffisamment fort pour que je puisse donner ici tranquillement à Monsieur Giscard d'Estaing l'assurance qu'il aura contre lui l'an prochain un candidat socialiste porté par un parti puissant et rassemblé et avec une très solide volonté de victoire.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue de la maison de Radio France Quai Kennedy à Paris où nous sommes en ce moment et j'ai l'impression, d'après les chiffres que nous possédons, pour une très très longue soirée. Bienvenue d'abord aux auditeurs de France Inter qui se déplacent avec leur transistor ou qui sont carrément à bord de leur voiture. Cette petite musique vous annonce que des chiffres sont à l'antenne. Dans quelques instants, la première estimation sur les différents candidats, c'est-à-dire qui est en tête. 20h. Voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu 51,7% et Valéry Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Je crois que je vois Lionel Jospin qui est assis. Peut-être peut-on le mettre à l'antenne tout de suite et on va essayer d'avoir une déclaration. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste.
Ce que je voudrais dire, c'est que dans un grand élan populaire et national, le peuple français vient d'élire François Mitterrand à la présidence de la République française.
Ouais.
Dimanche 10 mai 1981, Paris, les 23h. La capitale est en liesse. Dans les rues, les voitures klaxonnent. Dans le métro, les gens chantent en chœur la Marseillaise. Place de la Bastille, sur la grande colonne de Juillet, on accroche des drapeaux bleu, blanc, rouge. Depuis l'annonce des résultats, plusieurs dizaines de milliers de personnes affluent ici pour fêter la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Après 23 ans de disette sous la Ve République, la gauche est enfin au pouvoir. Situation qui rime à l'époque avec espoir. C'est tout le sens de ce rassemblement populaire. Sur la tribune, on aperçoit les ténors du PS, Paul Quilès, Lionel Jospin, Pierre Mauroy, Roland Dumas. Mais l'invité qui attire l'attention, c'est Michel Rocard. Rocard, l'outsider politique. Celui qui, jusqu'au dernier moment, a voulu prendre la place de Mitterrand. Il est là, ému. Il prononce quelques mots improvisés pour féliciter le vainqueur. Son discours est retransmis à la télé. Derrière lui, en arrière-plan, on aperçoit des grands panneaux sur lesquels on peut lire « Mitterrand, la France t'attendait ». Dans les jours qui suivent, François Mitterrand nomme Pierre Mauroy au poste de Premier ministre. Et Michel Rocard devient ministre du plan, autrement dit au placard. Humiliation. Le temps a toujours été le meilleur allié de François Mitterrand, fin stratège. Il a joué le jeu pendant 2 ans, laissant Michel Rocard occuper la scène médiatique à jouer les modernes, pour mieux lui offrir un Marocain technique de ceux qui n'attirent ni micro ni projecteur. 2 ans plus tard, en 1983, il finit par lui confier un ministère de terrain, un vrai quoi, l'agriculture. Mais ce n'est pas fini. 1 an plus tard, François Mitterrand nomme le jeune Laurent Fabius à Matignon. À 37 ans, ce brillant énarque charmeur et charmant donne le ton et impose un style autour d'une doctrine « moderniser la France ». « Du pillage !» s'exclame Rocard, qui comprend immédiatement le danger. Sa politique du renouveau et de la modernité va se banaliser, il va même en être spolié. C'est clair comme de l'eau de roche, son prochain rival, ce sera lui, Laurent Fabius, une créature mitterrandienne. Alors, mieux vaut s'éloigner de tout ce beau monde.
Le coup de théâtre a éclaté à 2h44 du matin et en 15 mots. Michel Rocard a présenté cette nuit sa démission du gouvernement au président de la République. C'était net, c'était bref et c'est tout. Le secrétariat du ministre de l'Agriculture n'a pas voulu en dire plus et Michel Rocard se tait. Son successeur au ministère de l'Agriculture est M. Henri Nallet, qui est conseiller technique à l'Élysée.
Le 4 avril 1985, Michel Rocard réalise l'une des sorties les plus théâtrales d'un gouvernement de la Ve. Son prétexte, le mode de scrutin saupoudré de proportionnel que le gouvernement a choisi pour les prochaines élections et avec lequel il est en profond désaccord. Officieusement, il se dit que Rocard a déjà en ligne de mire la prochaine élection présidentielle, celle du printemps 88. De son côté, François Mitterrand est furieux de ce pied de nez adressé par celui qu'il considère comme un homme puéril, gâté et impatient. 1 an plus tard, la gauche est battue aux législatives de 1986. Jacques Chirac débarque à Matignon. Pour la première fois, un président de la République et un premier ministre de bords politiques opposés doivent travailler ensemble. C'est la première cohabitation. Isolé à l'Élysée, François Mitterrand est dans une position délicate. Pendant ce temps, Michel Rocard se lance dans un tour de France au parfum de pré-campagne. Il est partout, à la télé, dans la presse, il est dans la lumière, pendant que François Mitterrand est dans l'ombre, retranché au palais de l'Élysée. Pour garder la main, le chef de l'État invite Michel Rocard à l'Élysée en décembre 1987. À ce moment précis, personne ne sait s'il va se présenter. C'est le privilège des présidents. Tous entretiennent le mystère sur leur candidature jusqu'à aujourd'hui. L'actualité nous le rappelle. Rocard veut être candidat en 88 et le dit à François Mitterrand qui lui répond comme en 1981 « Mais faites donc, c'est votre responsabilité, pas la mienne ». Bien. Face à ce voyant ni vert ni rouge, autrement dit mitterrandien, Rocard hésite. Doit-il tenter sa chance une deuxième fois, avec le risque de se faire encore humilier si Mitterrand y va? Suspense à gauche. Mais là encore, en apparence, car bien plus tard, il se dira que les deux hommes ont signé ce jour-là un pacte de confiance afin de ne présenter qu'une seule candidature pour la présidentielle de 88. Et cette candidature, c'est celle de François Mitterrand, qui l'annonce le 22 mars, 1 mois et demi seulement avant le premier tour de l'élection, avec ce oui de chanoine qui montre toute sa force et sa sérénité à ce moment précis de son parcours.
Ma première question est simple et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question, Monsieur le Président. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République.
Oui. Vous avez mûrement réfléchi?
Je le crois. On peut savoir quand vous avez pris cette décision? Certains disent c'est en juillet 87, d'autres disent c'est pendant les fêtes de fin d'année.
Je n'en sais rien moi-même.
Un mois et demi plus tard, le 8 mai 1988, François Mitterrand remporte une victoire éclatante avec 54% des suffrages, un triomphe. Après seulement deux mois de campagne et deux ans à semer les graines de la division au sein de la droite, soutenant toutes les forces sociales en lutte contre le gouvernement Chirac, les jeunes notamment qui lui disaient « Tonton, laisse pas béton », il devient le premier président de la République à effectuer deux mandats d'affilée. À 72 ans, grâce à une gestion politique de la cohabitation qui ferait passer Machiavel pour un amateur, il apparaît comme le président de la jeunesse, du renouveau, l'artiste, titre d'ailleurs le journal Libération au lendemain de sa réélection. Les rumeurs vont alors bon train sur le nom du prochain ministre, comme d'habitude. Peu après sa réélection, le président organise un déjeuner entre trois prétendants, Pierre Bérégovoy, Jean-Louis Bianco et Michel Rocard. À la fin du repas, Mitterrand se tourne vers Bérégovoy et lui dit, à voix haute, « Si je devais choisir le candidat de mon cœur, ce serait vous, Pierre. J'ai confiance en vous, je sais que vous pensez comme moi. » Suite d'un silence de quelques secondes qu'on imagine pesant, surtout au regard de l'enjeu, avant que le président n'ajoute, « Mais celui qui est en situation pour assurer cette responsabilité, c'est vous, Michel Rocard. C'est vous que je vais nommer Premier ministre. » Un dessinateur de presse aurait pu croquer Mitterrand se pinçant le nez à ce moment précis. Quelques heures plus tard, sur le perron d'Élysée, Jean-Louis Bianco, toujours secrétaire général, annonce...
Le président de la République, vu l'article 8 de la Constitution, décrète Monsieur Michel Rocard est nommé Premier ministre.
Rocard à Matignon, un choix politique, rien d'autre. L'homme représente l'ouverture que les Français réclament. Et s'il échoue, François Mitterrand aura enfin la possibilité de l'écarter définitivement. Ça s'appelle lever l'hypothèque. D'ailleurs, à ses proches qui s'étonnaient de ce choix, Mitterrand aurait répondu « Oh, c'est l'affaire de 18 mois tout au plus. À ce moment-là, on verra à travers. » En réalité, le Premier ministre tiendra 3 ans et 5 jours. C'est bien plus que Laurent Fabius à ce poste, quasiment en tant que Pierre Mauroy. Entre-temps, Michel Rocard aura engrangé des succès majeurs. Les accords de Matignon, traité qui met un terme au conflit en Nouvelle-Calédonie, le RMI, la loi Guesso, texte qui réprime le négationnisme et l'antisémitisme, un bilan plus qu'honorable pour un Premier ministre. Seulement voilà, Mitterrand veut se débarrasser de Rocard, encore et toujours. D'autant qu'il est convaincu que son Premier ministre essaie en permanence de le doubler en faisant alliance avec les centristes pour gouverner. Alors il faut lui barrer la route pour la présidentielle de 95. Et pour ça, il fallait lui enlever d'abord Matignon. Un préalable, pas question de lui laisser un tremplin. Reste 3 ans, où avec François Mitterrand à l'Élysée, Michel Rocard à Matignon, la gauche au pouvoir s'est retrouvée dans une cohabitation, disons, endogène, transformant l'exécutif en une diarchie dissonante, comme d'autres en ont connu à droite, entre Pompidou et Chaban, Giscard et Chirac. Ainsi, entre Mitterrand et Rocard, les conseils des ministres et les rendez-vous entre les deux hommes sont-ils placés sous le signe de l'incompréhension et de la tension? Jusqu'à cette journée du 15 mai 1991, journée où le vase des rancœurs a fini par déborder. Mais ce jour-là, le président de la République a bien limogé son Premier ministre comme on limoge un domestique. L'épreuve du pouvoir aura eu raison de leur relation impossible. Elle l'aura validée jusqu'à l'estocade. Lorsque François Mitterrand promeut en sous-main l'ascension de Bernard Tapie lors des Européennes de 94 comme un scud contre Michel Rocard dont la liste fait à peine mieux que celle de l'homme d'affaires. Résultat, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand n'est plus en situation de se présenter à la présidentielle de 95. Le 8 janvier 1996, après avoir courageusement lutté contre la maladie, l'ancien président tire sa révérence et quitte ce monde. De ce jour, Michel Rocard ne s'est plus lancé dans la présidentielle, comme si son ambition ne pouvait se nourrir que de la féroce adversité de François Mitterrand.
Shoes, drive your problems from here.
Sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, première émission d'une série que nous consacrons cette semaine et jusqu'à jeudi à la trahison en politique. Et on commence, et on a commencé avec ce récit de l'histoire entre François Mitterrand et Michel Rocard. Il y a de la trahison là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Et on va en parler avec vous, Jean Garrigue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez donc dirigé l'écriture collective de ce livre qui s'appelle La République des traîtres. Et vous avez demandé la collaboration pour chacun des chapitres de gens comme Catherine Ney, Christophe Barbier, Christine Claire, Renaud Dely, Michel Cotta. Je vais les citer tous, il n'y en a pas tant que ça.
Plume.
Oui, Sylvain Courage, qui je n'avais pas cité, Hervé Gattegno. Voilà, c'est on ça. Les a tous cités. Alors, dans cette histoire de trahison, qu'on met dans la trahison, moi j'y vois plutôt plus du meurtre symbolique, parce qu'en politique on est dans le meurtre symbolique, heureusement, en démocratie. Est-ce qu'on est plus dans le règlement de compte, dans la rivalité personnelle que dans la trahison, ou dans les deux?
Mais ça va même au-delà de ça, et c'est d'ailleurs un peu l'esprit du livre, c'était de montrer que autant la trahison, au fond, ce qu'on peut appeler la trahison est un phénomène presque inévitable dans le contexte institutionnel de la Ve République, ou si vous voulez aller jusqu'au pouvoir suprême, l'objet, le Graal, c'est-à-dire la présidence de la République, à un moment donné, il faut se séparer de quelqu'un dont vous avez été proche, il faut faire le ménage, et en même temps, pour parler comme l'autre, en même temps, au fond, ce qu'on appelle trahison n'est souvent, au fond, que la confrontation de lignes, d'idées, de valeurs différentes. Et c'est particulièrement marquant entre François Mitterrand et Michel Rocard, le reportage qu'on vient d'entendre, le récit qu'on vient d'entendre, le Monde, à quel point ils sont très différents, à quel point leur conception du socialisme est très différente, leur personnalité, alors n'en parlons pas, c'est l'eau et le feu.
Alors, est-ce que dans l'esprit de François Mitterrand, la social-démocratie telle que la voyait Michel Rocard, avec des accointances possibles avec le centre, est une sorte de trahison? Qu'on peut considérer comme ça?
Sachant que Mitterrand est un converti de la dernière heure, puisqu'il n'a pas sa carte du PS avant d'en prendre la direction à Épinay, son analyse qui est au fond, qui s'enracine dans l'histoire de la France, l'histoire républicaine de la France, et dans l'histoire des rapports entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Une analyse très différente de celle de Michel Rocard, qui est lui tourné vers la dimension européenne de la social-démocratie, qui est un vrai socialiste aussi, hein, parce que Rocard est socialiste depuis 1949, les jeunesses socialistes, il a été au fond socialiste bien avant Mitterrand. Mais ils ont deux conceptions très différentes du socialisme. Mitterrand est non pas enfermé, mais Mitterrand tient beaucoup finalement à se ressourcer dans cette histoire du socialisme depuis le Front Populaire en réalité. C'est ce que dit Fabius. Fabius dit il y a un premier âge du socialisme qui est Jaurès, un deuxième âge qui est Blum, et le troisième ce serait François Mitterrand. Donc on voit bien le poids de cette histoire sur Mitterrand. Et cette histoire ne pèse pas sur Rocard, qui lui a une autre vision, une vision voilà qui le pousse à l'international et donc à une social-démocratie à l'allemande, par exemple.
Voilà. Puis aussi une histoire de filiation. On peut dire, vous confirmerez ou vous infirmerez que Rocard est de cette deuxième gauche qui est la gauche de Mendès France.
Hein,
Mendès France, Rocard, et puis après on va trouver des gens comme Delors, Strauss-Kahn, Hollande.
Exactement.
Ça, c'est la même famille. Hein.
C'est la même famille.
C'était une famille qui, deux familles qui ne pouvaient pas s'entendre. Est-ce que le fait, pardon, j'ai deux questions en une, est-ce que le fait que ces deux familles ont eu du mal à s'entendre pourrait expliquer au moins en partie l'affaissement du Parti Socialiste?
Moi, je suis persuadé que ces deux familles auraient pu s'entendre et qu'au fond, au moment de la cohabitation entre Jacques Chirac, président de la République, et Lionel Jospin, à ce moment-là, il y avait une possibilité, on a bien vu, une sorte de cristallisation des gauches, de la gauche, je dirais, un peu plus traditionnelle, et de cette gauche social-démocrate. Donc le rendez-vous était possible. Mais précisément, ce rendez-vous n'a pas été possible à l'époque de François Mitterrand et de Michel Rocard, parce qu'il y avait une sorte d'incompréhension en ce moment-là, entre les deux hommes. Mmh. Et on voit bien à quel point l'histoire, elle est aussi tributaire des tempéraments, des psychologies des uns et des autres, parce que ceux qui pouvait être possible ensuite, où on a retrouvé des Jospin travaillant avec des Fabius, même avec des Aubry et des Strauss-Kahn, à ce moment-là, n'avait pas été possible.
Mmh. Vous savez, cette histoire me rappelle un peu, genre, les comparaisons dans le temps sont hasardeuses, mais celle de Mozart et Salieri, quoi. Mmh. Quelque part, Rocard eut la malchance, avec le talent qu'il avait, oui, d'être un contemporain de Mitterrand, qui lui en avait beaucoup. Et justement, Michel Rocard avait beaucoup de talent. On a, dans le récit, rapidement fait le bilan de son passage à Matignon. Je rappelle la CG aussi, hein, que je n'ai pas cité. La CG, le RMI, l'affaire calédonienne. Oui. Est-ce que Mitterrand a... Alors je sais que Rocard a toujours dit, vous rendez compte, sur l'affaire calédonienne, Mitterrand ne m'a même pas remercié. Mais je crois qu'il n'en pensait pas moins. Il a été admiratif de Rocard,
oui,
au moins une fois.
Tout à fait, vous avez raison. Mais il affectait aussi de mépriser Michel Rocard. C'était plus une relation, non pas de... Je dirais de différence. C'était deux planètes différentes. Ils ne se comprenaient pas... Et on le voit bien à chacune de leurs entrevues, même dans ce moment quand même très très particulier où Rocard vient de se présenter à Conflans-Sainte-Honorine et où il rencontre Mitterrand. Et il ressort de leur entrevue persuadé que Mitterrand ne va pas se représenter. Il est tout fier, tout heureux. Il le dit à Jacques Attali. Jacques Attali, qui a très bien senti qu'il allait se faire rouler dans la farine, on voit bien que Mitterrand va se présenter. Et c'est là qu'on mesure vraiment l'incompréhension entre les deux hommes. Et puis, quelque part, à plusieurs reprises, le manque de finesse politique de Michel Rocard, qui ne comprend pas les subtilités du jeu machiavélique
et florentin,
machiavélien
de Michel Rocard.
Et florentin.
Bon, alors, puisqu'on parle de trahison, tout de même, quand Michel Rocard, en 1978, lors de la soirée électorale à la télé consécutive à la législative, aux législatives hein, de 1978, dit « Bon sang, il n'y a pas de fatalité, on va pas perdre toujours, moi je vous assure qu'on perdra pas toujours ». C'est vrai que politiquement, c'est fort, mais ça peut être ressenti par Mitterrand comme une trahison.
Ah oui, sûrement. Sûrement, puisqu'au fond, c'est une manière de ne pas totalement assumer la défaite collective de l'union de la gauche, qui avait quand même été la grande idée de François Mitterrand, qui était un moyen pour François Mitterrand de prendre l'avantage, d'ailleurs, à travers cette union, sur le Parti communiste. Et le calcul, d'ailleurs, a été finalement payant. Donc là, en se présentant finalement lui-même comme une sorte de recours, là, il trahit celui qui est le premier secrétaire de son parti. C'est incontestable.
Et on a l'impression que quand Michel Rocard franchit le Rubicon, hein, d'une certaine façon, franchit la rivière de la honte, comme on dit. Il a peur en même temps.
Ben oui.
Il a peur. Il a la voix blanche en 78. Il a peur quand il fait cette déclaration. Il dit j'y vais, mais qu'est-ce que je vais me prendre, quoi.
Cet appel de Conflans est tellement maladie, tellement maladroit que véritablement, qu'on appelle ça appel de Conflans par dérision en réalité, parce que on sent bien que quelque part il a honte, quelque part c'est une sorte de demi-candidature, parce qu'il sait très bien que derrière il y a quand même le risque que le pape du socialisme, celui qui a toutes les ficelles, qui tire toutes les ficelles, eh bien va à ce moment-là lui avoir la main, quoi.
Bon, et puis arrive alors 1988, où François Mitterrand nomme Michel Rocard à Matignon, ce que j'ai appelé dans le récit une cohabitation endogène. Il y avait un peu quelque chose de ça, hein. On cohabitait au sein du même parti.
Oui, c'est un mariage de raison, oui. Parce que à ce moment-là, la majorité parlementaire ne sera pas suffisante pour assurer une homogénéité entre les deux partis.
D'où l'emploi du 49-3, abusif de Rocard.
Et donc, le besoin de s'appuyer sur un Premier ministre d'ouverture, et peut-être aussi le moyen pour Michel Rocard, pour François Mitterrand, d'user Michel Rocard, ce qui a, là aussi, parfaitement réussi.
Vous verrez, dans 3 ans, on verra à travers.
Enfin, voilà, exactement, c'était le calcul de copains. François Mitterrand.
On va écouter justement le témoignage de Michel Rocard sur cette période. Il y revient le 7 avril 2001, c'est un samedi, c'est un week-end en tout cas, dans le 7-9 du week-end de France Inter.
Alors je me suis toujours demandé, j'en profite puisque vous êtes en face de moi, pourquoi avez-vous accepté d'être le Premier ministre de François Mitterrand, puisque vous n'avez que peu de respect pour cet homme et ses notoriétés publiques ?
Tout à fait, mais il ne s'agissait pas de François Mitterrand, il s'agissait de la France, figurez-vous. J'ai un immense respect pour mon pays, il y avait quantité de choses à faire. C'était dans le groupe de mes amis que s'était inventée cette idée du revenu minimum d'insertion. Il nous avait fait la grâce de reprendre l'idée dans la lettre à tous les Français. Mais c'était bien normal que les inventeurs, et d'abord moi, soient chargés de l'appliquer. Et puis, le président de la République me nomme Premier ministre, c'est pour servir la France beaucoup plus que lui-même.
Ça doit être difficile quand même d'être...
Ça n'a pas été facile.
Alors, l'intervieweuse dit un homme que vous ne respectez pas. En fait, si, Rocard respectait Mitterrand, était même totalement
trop.
Est-ce qu'il y avait quelque chose de psychanalytique là-dedans ?
Écoutez,
quand on parle du père de Rocard,
exactement. Est-ce qu'il y avait une image de père qui était beaucoup trop lourde, enfin, à porter sur les épaules de Michel Rocard ? En tout cas, en ce qui concerne cette analyse, elle montre à quel point, là, 13 ans après, puisqu'on est en 2001, on sent encore le poids, justement, de cette rancœur, de cette animosité de Michel Rocard, qui se rend compte qu'au fond, ben, il est peut-être passé à côté de son destin par la faute de François Mitterrand. Alors, on pourrait aussi l'analyser d'un point de vue plus historique ou de sciences politiques, en se disant que on a manqué une sorte de rendez-vous avec un modèle de social-démocratie à l'anglo-saxonne, mais en même temps, là encore, Mitterrand a permis à la gauche d'exercer pendant 14 ans le pouvoir et d'installer la gauche comme une force d'alternance, qui était aussi, par rapport à l'histoire, quelque chose d'essentiel.
Bien sûr. Alors, dernière question sur l'affaire Mitterrand-Rocard. Après, on parlera de la trahison politique plus largement à travers votre livre. Cette histoire de 1994, quand Mitterrand promeut la candidature de Bernard Tapie, apparemment pour torpiller celle de Rocard. Hein.
Oui.
Ça, il y a une certaine violence là-dedans, quand même.
Oui, pour moi, c'est la grande faute politique de François Mitterrand. Mais si tant est qu'il y ait une morale en politique, en tout cas, on s'aperçoit qu'en favorisant la candidature de la liste de Bernard Tapie, en affaiblissant la liste socialiste, au-delà même de Michel Rocard, bah, c'était un mauvais coup donné à sa famille politique. Et on voit très bien, d'ailleurs, que François Mitterrand avait beaucoup de répugnance à préparer l'après Mitterrand, se sentant quelque part trahi un peu par tous, notamment par Michel Rocard, bien sûr, et par Lionel Jospin aussi, qui parlait du droit d'inventaire. Donc, on voit bien là que c'est une sorte de coup d'épée, de dernier coup d'épée d'un vieillard qui sent un peu le pouvoir lui échapper. Mais je le répète, dans l'histoire du socialisme, c'est vraiment un mauvais coup qui a été donné, n'a pas permis de préparer ce que serait ensuite la succession, le rebond du socialisme.
Ça a même hypothéqué l'avenir, peut-être.
Oui, je le pense. Oui.
Alors, il y a aussi en politique, des trahisons, des trahisons préméditées, des fausses trahisons. Je pense à cette déclaration de Laurent Fabius quand il est Premier ministre et qui dit « Lui, c'est lui, moi, c'est moi ». Alors, moi, je me suis dit, quel culot quand même, quel courage, c'était peut-être concerté, c'était peut-être une fausse trahison. Ça existe aussi, les fausses trahisons, ou qu'est-ce que vous en pensez de cet épisode-là ?
Moi, je crois que c'était une manière de s'émanciper un tout petit peu, de prendre un peu de distance, de couper le cordon ombilical avec le père. Et je pense que Mitterrand ne l'a pas beaucoup apprécié parce qu'il considérait Fabius un peu comme son fils spirituel, justement. Son héritier. Et je pense que, pour le coup, c'était pas une fausse trahison. En tout cas, ça n'a pas dû être interprété comme une fausse trahison.
Bien. Alors, on va élargir un peu et repartir dans une période très récente. Le 3 octobre dernier, il y a un mois, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, démissionne.
La nouvelle est tombée dans la nuit. Par ses équipes, le président de la République fait savoir qu'il a accepté la démission de Gérard Collomb et demandé au Premier ministre Édouard Philippe d'assurer son intérim. Au ministère de l'Intérieur, rendez-vous est donc donné à 9h15. Seul sur le perron, Gérard Collomb devra toutefois attendre de longues, très longues minutes le Premier ministre pour lui rendre définitivement les clés de la place Beauvau, pas peu fier ce matin de partir sur une bonne note.
Il y a une continuité de l'État. Et on l'a vu encore ce matin, le ministre allait démissionner. Cela n'a pas empêché les policiers d'arrêter Redouane Faïd. Et donc, voilà, il restera toujours une petite part de vous dans mon cœur.
16 mois ministre, ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron quitte donc aujourd'hui le gouvernement pour retrouver la mairie de Lyon.
Alors, on a cru savoir, on a cru comprendre qu'Emmanuel Macron n'avait pas du tout apprécié, que c'était peut-être une trahison, que Collomb avait été considéré comme une prise de guerre. On ne sait trop pourquoi d'ailleurs, parce que jamais le Parti Socialiste ne lui a confié de grandes missions nationales. Donc, prise de guerre, on fait mieux, mais enfin bon. Et puis, il est parti. Est-ce que c'est une trahison, ça?
Là encore, c'est compliqué parce que, au fond, Gérard Collomb pouvait, lui, légitimement se sentir trahi qu'on lui ait fait porter le chapeau dans l'affaire Benalla. Et d'ailleurs, il a exprimé ça de manière presque très claire, je dirais. Et puis, c'est vrai que dans la manière dont il s'en va du gouvernement d'Édouard Philippe, en tout cas, on l'a bien vu à la froideur de ce départ et de l'attitude d'Édouard Philippe, Édouard Philippe, lui, en tout cas, s'est senti trahi. Et je pense que Emmanuel Macron, qui comptait sur Gérard Collomb comme l'un des seuls poids lourds, finalement, de ce gouvernement, lui aussi a dû éprouver un sentiment de trahison, comme quoi la trahison est partout et elle est à chaque fois en miroir. Parce que on trahit celui qui vous a trahi. Ça arrive très souvent, ça.
Alors, je ne sais pas si vous avez lu, probablement, les dernières déclarations de François Hollande, ce week-end encore, je crois, qui parle d'Emmanuel Macron. Alors, Macron, il n'arrête pas. La dernière, c'est il est comme un enfant qui est content d'avoir piqué les clés du camion, on s'aperçoit qu'il est rempli de nitroglycérine, une phrase comme ça, amusante. N'empêche que ça dit quelque chose. On a l'impression vraiment que François Hollande s'est senti trahi et se sent encore trahi par Emmanuel Macron. Et il n'arrête pas, remarquez, il n'arrête pas.
Mais oui, là encore, il s'est considéré comme le père spirituel, celui qui était le mentor d'Emmanuel Macron en politique. Et de manière objective, on peut dire qu'effectivement, c'est lui qui lui a fait franchir les degrés du pouvoir jusqu'à devenir ministre des Finances, quand même sous la Ve République, un poste majeur. Et en même temps, là encore, si on prend un peu de distance par rapport à l'aspect assez psychologique des choses, on s'aperçoit très vite que Emmanuel Macron, comme beaucoup de l'entourage de François Hollande, constate l'échec du quinquennat et l'incapacité de la gauche ou d'une partie de la gauche à garder ou reprendre le pouvoir. Et donc, au fond, son calcul politique, c'est un calcul qui vise à s'émanciper du père. Et ça, c'est quelque chose qu'on a connu à toutes les époques. Ça commence au début de la Ve République, avec Georges Pompidou
et De Gaulle.
Et Georges Pompidou qui dit moi, si on peut succéder à un moment donné, je succéderai volontiers au général De Gaulle. En tout cas, je serai candidat à la présidence de la République. C'est le fameux appel de Rome de Georges Pompidou. Et là aussi, De Gaulle se sent trahi par celui qu'il considérait comme son successeur, sa créature. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans l'attitude, la rancœur d'aujourd'hui de François Hollande.
Alors, si on veut finir de balayer un peu les grands moments de trahison, ce qui est apparu comme tel dans la vie de la Ve République, il y a quelque chose qui est presque une matrice, c'est Monsieur Chirac, elle est formidable. C'est-à-dire que c'est trahison de Chaban pour mieux trahir Giscard 2 ans après. C'est une matrice.
Ah, Chirac, c'est fantastique parce que... Mais là aussi, Chirac, donc, en pleine élection, au milieu de l'élection présidentielle, trahit Jacques Chaban-Delmas, qui est le candidat de son camp. Mais il le fait en disant, mais c'est parce que Jacques Chaban-Delmas, au moment des obsèques de Georges Pompidou, a manifesté trop vite sa candidature, et parce que, et c'est surtout l'argument de Chirac, Chaban ne sera pas capable de faire gagner la droite à l'élection. Et puis alors, il devient Premier ministre de celui qui l'a permis de faire gagner, et en 1980, sabote totalement sa campagne.
Pour être la première force d'opposition dans la majorité.
Dans la majorité.
Pardon, vous brusquez Jean Garrigue, mais c'est la fin. En tout cas, merci infiniment.
Il y a tellement de trahison.
Dites donc, la République des traîtres, chez Talendier, donc de 1958 à nos jours. On va y passer toute la semaine. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Mitterrand Rocard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.